Aujourd'hui, la masterclass de Cédric Clapiche avec Géraldine Mosna-Savoie.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette masterclass en votre compagnie, Cédric Clapiche. Bonjour et bienvenue à
bonjour.
Vous aussi. Alors, pendant l'heure qui vient, nous allons découvrir la manière dont vous fabriquez vos films et la manière dont c'est construite, peut-être malgré vous, votre filmographie. Cédric Clapiche, faut-il le rappeler, vous êtes réalisateur, scénariste, producteur, et depuis 1992 et votre premier long métrage, Rien du tout, jusqu'à Ce qui nous lie, qui est sorti en 2017, ce sont 12 films de vous que l'on a pu voir sur les écrans. Et pour commencer, je voulais vous raconter une expérience que j'ai faite cette semaine. En prononçant votre nom, j'ai pu observer l'effet presque sentimental, intime de vos films sur les spectateurs. J'ai pu observer qu'évoquer vos films, c'était faire cette expérience. D'abord, d'écouter des souvenirs de visionnage. Tout le monde m'a raconté la première fois qu'il a vu Le Péril Jeune sur Arte et le nombre de fois qu'il l'a revisionné sur VHS, évidemment. Et puis, j'ai aussi fait l'expérience de l'imitation, de l'appropriation. J'ai eu droit aux répliques d'un air de famille, notamment Yo-Yo et Le Collier de Chien, évidemment. Et puis, j'ai eu aussi cette expérience d'entendre des confessions. Plusieurs de vos spectateurs se sont identifiés, par exemple, à Xavier, dans l'auberge espagnole et ses suites. Et je voulais savoir si vous aussi, vous aviez, c'est ma première question, un rapport aussi intime et sentimental au cinéma.
Oui, disons que il y a les films qui marquent et les films qui passent. Et donc forcément, les films qui marquent, on se souvient de beaucoup de choses. Je me souviens quand j'ai vu Les Affranchis de Scorsese la première fois. J'ai été au café avec un copain à moi avec qui on avait vu le film et on se souvenait de chaque scène et donc moi je me souviens de ce café où on a parlé et où ce film il s'est imprimé en moi parce que voilà c'est un film qui m'a marqué. Il y a ce rapport intime avec les films marquants je pense.
Mais vous aviez en tête peut-être déjà de faire quelque chose qui parle autant aux gens, qui les touche autant peut-être parce qu'en fait ils ont eu l'impression de se reconnaître dans les personnages, dans les sujets que vous traitiez au plus près d'eux, au plus proche d'eux.
Bon, évidemment, c'est une volonté de toucher le public. C'est-à-dire que pour moi, j'ai assez vite compris que ce qui m'intéressait dans le cinéma, c'était l'émotion et la façon de transmettre des émotions aux autres. Donc, si ça marche, tant mieux. Après, c'est justement, c'est à chaque fois, chaque film, c'est une espèce d'expérience différente pour essayer de voir comment on va toucher les gens. Et puis, parfois, on y arrive, parfois, on n'y arrive pas. Et justement, quand on y arrive, c'est pas volontaire, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est un peu mystérieux et qui sort de soi malgré soi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas complètement calculer l'effet que va avoir un film sur les gens.
Pourquoi avoir choisi le cinéma plutôt qu'un autre médium pour toucher les gens, si c'est l'émotion qui vous intéressait en premier? Comment est venue cette vocation, et est-ce que c'était d'ailleurs peut-être une vocation ou pas, de faire du cinéma?
Alors, après coup, on se dit toujours « oui, j'étais fait pour ça » et tout ça, mais en fait, quand je vois le cheminement, c'était plus complexe parce que, d'une part, moi, j'ai eu une hésitation entre la photo et le cinéma. Et c'est vrai que plus j'ai avancé dans... Disons que j'ai fait des expos de photos quand j'étais adolescent, au lycée. J'ai fait des études, puis une école de cinéma à New York. Et quand j'ai fait cette école de cinéma, j'avais 23 ans. Et je savais pas si j'allais devenir plutôt chef opérateur ou réalisateur. Et en fait, c'est vraiment en étant dans cette école que j'ai décidé d'être réalisateur. Surtout parce que la notion de récit m'a intéressé. Justement, cette notion de récit, c'est comment véhiculer des émotions. Je pense qu'un photographe peut évidemment véhiculer des émotions, mais il y a la notion de raconter des histoires qui s'est rajoutée en plus, quoi.
Que vouliez-vous raconter comme histoire, par exemple? Est-ce que vous aviez déjà en tête des grands récits, des héros en particulier, des influences qui vous ont amené à faire du cinéma d'une telle manière ou d'une autre?
En fait, la problématique, c'était justement de se permettre de pas écrire des grandes histoires, mais d'écrire des petites histoires. Et que les petites histoires, elles peuvent être intéressantes. Grosso modo, c'est ce qui s'est passé sur Le Péril Jeune. C'est-à-dire que moi, quand j'ai écrit Le Péril Jeune, j'ai écrit avec deux amis qui étaient au lycée avec moi et on s'est dit on va raconter notre année de terminale et donc c'était un film de commande pour Arte. Il fallait faire la vie d'un lycée en 75. Donc moi j'étais en terminale en 79 et on s'est dit voilà ça correspond à peu près à notre époque. Et tous les trois on a évoqué nos souvenirs. Quand on a fini le scénario on s'est dit en fait, on raconte pas grand-chose. On s'est dit, c'est trop banal comme histoire, ça va pas intéresser les gens. Et justement, je pense que le succès du Péril Jeune dont vous avez parlé, c'est la banalité, c'est le fait d'avoir été sincère avec des choses très quotidiennes et avec des choses qui sont petites, qui sont pas ni le récit d'Ulysse, ni le récit du Comte de Monte Cristo. Donc, c'est vraiment le fait de faire confiance à des petites choses, quoi.
Comment vous trouvez à partir de là, comment vous vient l'idée ? Parce que raconter la banalité, saisir ce qui est au plus proche de nous, c'est extrêmement difficile de mettre la main dessus par l'image, par le montage, par les scénarios, par les dialogues. Vous avez un sens des situations et du dialogue. Comment vous arrivez à parvenir à les saisir ?
C'est pas tellement le fait de saisir le quotidien ou la banalité, c'est le fait de la rendre intéressante. C'est de prendre des choses qui sont inintéressantes et de les rendre intéressantes, en fait. Alors, pour pouvoir répondre à votre question, déjà, il faut que je réponde à une question plus large, puisqu'on est sur France Culture, j'ai parlé de culture. C'est-à-dire que, déjà, moi, je m'inscris dans un courant réaliste. C'est-à-dire que je fais confiance au fait qu'en parlant de la réalité, il va y avoir quelque chose d'intéressant qui va se passer. Si je suis honnête, c'est la tradition française. C'est-à-dire que si on oppose la tradition anglo-saxonne avec la tradition française, en Angleterre et aux États-Unis, ils sont plus du côté de l'imaginaire, et en France, on est plus du côté à la fois de la psychologie et de l'intime, et à la fois du réalisme. Tous les auteurs de la littérature, avec leurs différences, Flaubert, Proust, Victor Hugo, Zola, Balzac, ils sont du côté de la description de la réalité. Si vous regardez l'équivalent en Angleterre, vous voyez que directement, il y a des gens comme Lewis Carroll, ou il y a des gens qui sont du côté du développement de l'imaginaire. Et du coup, moi, je suis issu de cette tradition où je me dis, il y a quelque chose à faire avec la réalité. Quand je vous dis que j'ai commencé avec la photo, en fait, la photo, ça apprend à être dans la rue, à se dire, voilà, comment on peut faire une photo avec une rue qui ne veut rien dire, quoi. Et du coup, ce questionnement de comment saisir la réalité, et des choses un peu insignifiantes, et de les rendre intéressantes, c'est ça la vraie question. C'est de savoir comment on fabrique un langage avec quelque chose qui est chaotique et qui veut rien dire au départ.
Par exemple, je pense, on a parlé du Péril Jeune, c'est peut-être l'exemple, le premier exemple qui vient en tête, parce qu'effectivement, c'est l'exemple qui est tout de suite cité par rapport à cette banalité, ce qui se joue à ce moment-là de la jeunesse, qui est en fait à la fois invisible et très prenant. Et en cela, votre cinéma est aussi un cinéma de génération. Vous parvenez à saisir l'esprit d'une époque qui ne se remarque pas forcément au quotidien, mais effectivement, quand on va voir vos films, on voit les questions qui se jouent au fur et à mesure des années, donc le rapport à l'Europe, par exemple, avec l'auberge espagnole, le rapport au chômage aussi, qui se dessine dès le Péril Jeune, le rapport à l'engagement, qui se joue aussi dans Peut-être, et puis très récemment, dans Ce qui nous lie, c'est aussi le rapport à l'héritage et à la transmission. La génération dont je fais partie a grandi avec vos films, et vous êtes parvenu à saisir l'esprit d'une génération. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous avez fait un cinéma de génération ou générationnel ?
En fait, c'est ce que les autres me disent. Alors, je ne sais pas si je dois être d'accord ou pas, mais en tout cas, quand on me le dit, c'est pas volontaire. C'est pas ce que j'ai cherché à faire. Je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que moi, j'essaye de photographier une époque, et je pense qu'on est toujours victime de son époque. C'est-à-dire que si vous regardez les films français des années 30, ils vont parler du Front Populaire, ils vont parler de leur actualité, où forcément après-guerre c'était encore pire, il y avait beaucoup de films qui étaient vraiment marqués par la guerre et où tous les réalisateurs, quel que soit leur style, je dirais, ou leur personnalité, ils étaient voilà victimes de leur époque. Donc il y a toujours ça. Le moment du néo-réalisme italien, c'est pas pour rien qu'il y a le néo-réalisme italien. Le moment où il y a la nouvelle vague, c'est pas pour rien qu'il y a la nouvelle vague. Il y a quelque chose dans la société qui imprime des choses chez les réalisateurs. Donc moi, c'est un peu pareil, mais c'est vrai que ce que je vous disais sur le côté vouloir décrire des choses insignifiantes ou vouloir photographier comme ça la banalité, bah forcément il y a des choses de l'époque qui s'impriment encore plus, je dirais, puisque moi c'est ça que j'essaye d'aller chercher, quoi.
Il y a un personnage, il y en a même plusieurs dans votre filmographie, souvent interprété par Romain Duris, il faut le dire, peut-être une sorte de double, ou si on fait le rapprochement avec La Nouvelle Vague, un parallèle à faire entre Truffaut et Antoine Douanen. On a l'impression d'avoir vu grandir Romain Duris aussi à travers vos films. Souvent, Romain Duris se retrouve dans le personnage, dans la peau d'un personnage qui observe par la fenêtre. Et effectivement, on a l'impression, quand on voit vos films, que vous avez observé par la fenêtre. Il y a d'ailleurs cette phrase qui est dite « Je regarde les autres vivre et je m'invente des histoires ». Comment, je vous ai posé la question de comment vous vient l'idée, comment vous parvenez à saisir l'esprit d'une époque. Est-ce que vous aussi vous regardez par la fenêtre pour voir peut-être ce qui ressort de cette époque?
Je ne fais que regarder par la fenêtre, par des fenêtres. Donc, oui, bien sûr. Disons qu'il y a, il y a le fait d'être observateur. Je pense qu'on peut pas être réalisateur sans être observateur. Et ensuite, faut en fabriquer quelque chose. C'est-à-dire qu'on faut pas faire que observer. Il y a un moment où il y a de la fabrication et le fait de justement choisir les moments dont on parle.
Comment faites-vous cette sélection justement? Comment vous procédez?
Ça, c'est de l'intuition pure, c'est-à-dire que c'est très compliqué de répondre pourquoi à un moment donné je me dis je vais faire l'auberge espagnole. C'est très compliqué parce qu'il y a un moment où il y a des désirs et des intuitions qui se cristallisent sur un sujet, sur un scénario, sur un film. Donc, mais c'est ça, c'est extrêmement intime et je pense que ça, c'est quelque chose qu'un réalisateur ne réalise pas. C'est-à-dire que on comprend toujours beaucoup plus tard pourquoi on a fait un film, quoi.
On a parlé du Péril jeune, mais juste avant le Péril jeune, il y a votre premier film, c'est Rien du tout, qui est un film avec Fabrice Lucchini, qui joue un PDG qui essaye de sauver une entreprise. C'est un sujet extrêmement actuel. Maintenant qu'on se trouve quelques années après ce premier film, est-ce que vous arrivez à dire maintenant comment vous est venue cette idée et ce qui s'était cristallisé à ce moment-là?
Oui, parce que bon, ça décrit bien le côté un peu aléatoire de tout ça. C'est que moi, à la suite de mon école de cinéma à New York, je cherche à faire des films. J'essaye de me dire, ça serait quoi mon premier long métrage. Pour gagner ma vie, je travaille pour des films industriels. Et donc, je vais dans des entreprises, j'écris des scénarios qui n'ont aucun sens, et je me retrouve dans des banques ou chez des vendeurs d'huile.
Quels sont les scénarios que vous avez écrits pour des entreprises? Comment on écrit un scénario pour une banque?
Bah non, c'est par rapport à une demande. Justement, à l'époque, il y avait la mode du management participatif. Et donc, du coup, on disait, il faut faire participer les employés et tout ça. Et donc, moi, ça me faisait beaucoup rire. Mais comme j'étais payé pour faire ces trucs-là, donc j'écrivais un truc qui était, ce que l'entreprise qui me payait voulait dire. Donc, c'était la communication interne. Et grosso modo, ça a été le matériau de base de Rien du tout. C'est-à-dire que là, j'ai pris un exemple, c'était l'équivalent de La Samaritaine, disons, qui depuis d'ailleurs, c'était très bizarre, parce que c'est arrivé 10 ans après le film, La Samaritaine a exactement subi le même destin, c'est un magasin qui a fermé, avec à peu près le même genre de raisonnement avec les employés. Mais donc, moi, j'ai essayé d'utiliser cette mode de la nouvelle façon de manager une entreprise. Et je me suis dit, je vais essayer de fabriquer une comédie dans un lieu qui d'habitude n'est pas comique, enfin le bureau, quoi, disons, les gens qui travaillent au bureau. Et je vais essayer justement avec des choses, ça s'appelle Rien du tout, parce que les gens se considèrent comme des rien du tout, les employés de cette entreprise. Et puis je parle des petits rien du tout, les petits rien de la vie qui vont faire que à un moment, ça va fabriquer quand même des choses, quelque chose. Ouais.
Et qui, ces petits rien du tout, qui vont d'ailleurs traverser votre filmographie, comment écrivez-vous ces dialogues? Arrivez-vous à trouver, je pense encore à Rien du tout, où on voit plusieurs métiers différents qui coexistent? En fait, c'est un monde à part ces grands magasins. Comment vous arrivez à écrire ces dialogues qui soient le plus proche de nous aussi, qui rendent parfaitement cette phrase qu'on aurait pu dire? Il y a d'autres répliques dans votre filmographie qui me viennent comme ça. Je dis ça parce que j'ai revu il y a pas très longtemps Casse-tête chinois. Romain Duris, Xavier se sépare de sa compagne et sa mère lui dit « Il faut que tu retrouves, que tu fasses l'effort de retrouver le chemin de l'amour. » Et il lui dit « Mais d'où te vient cette phrase si absurde? Pourquoi tu dis des choses comme ça ?» Et vous, comment vous arrivez à écrire des choses comme ça?
Pour revenir à Rien du tout, c'est vrai que c'est vrai dans chaque film. Il y a une espèce de travail de journaliste. C'est-à-dire que dans Rien du tout, là, d'une part, j'ai travaillé moi-même pendant un mois au rayon valise des Galeries Lafayette pour essayer de voir qu'est-ce que ça faisait. Et puis il y a encore une fois cette idée d'observation de la réalité où j'ai interviewé des gens des RH, des relations humaines, des gens qui engageaient les gens du magasin. J'ai fait un travail de journaliste en faisant des interviews de gens qui étaient vendeurs, etc.
Ce que vous faites pour la plupart de vos films?
Pour tous mes films, là, le film Ce qui nous lie sur le vin, j'ai interviewé beaucoup de vignerons avec ou des notaires qui m'ont parlé des problèmes de famille, de transmission, de choses comme ça. Et donc ça, c'est aussi avec ça que se nourrissent les films. Ouais.
Donc tout un travail de documentation où vous imprégnez, où vous habitez un lieu. D'ailleurs, il y a aussi l'importance des dialogues, mais il y a l'importance des lieux. Il faut absolument s'arrêter là-dessus, Cédric Lapiche. C'est-à-dire qu'on a parlé du monde de l'entreprise avec Rien du tout. On a aussi parlé du monde du lycée avec Le Péril jeune. Et puis, il y a Chacun cherche son chat, qui est un film qui paraît absolument dérisoire dans son sujet, à savoir la perte d'un chat, et qui pourtant va devenir une sorte de quête existentielle pour Chloé, qui est interprétée par la trop rare Garance Clavel, il faut quand même le dire. Et effectivement, là, on est à Bastille, et vous arrivez à photographier aussi la transformation de ce quartier-là, qui est en train, en fait, de se boboiser, on peut dire ça, en fait.
C'est vraiment l'époque où il y a eu cette transition-là, et c'est vrai que moi j'assistais à ça, où c'était un quartier très ouvrier, en fait il y avait tous les gens qui fabriquaient les meubles du Faubourg Saint-Antoine, et puis c'est l'année où justement les usines sont devenues des lofts en fait, et tous les bars ont changé, c'est-à-dire que tous les bars, il y avait que la rue de Lappe où il y avait beaucoup de bars depuis très longtemps, mais sinon les bars de la rue de la Roquette, la rue de Charonne, sont arrivés à ce moment-là, ça fait presque 20 ans maintenant ce film.
C'était en 96.
96, oui, donc c'est ça. Et donc c'est vrai que là, le but c'était de parler de cette transition. Et à l'époque, les gens n'ont pas compris. Ils pensaient que je parlais du respect pour le vieux Paris, alors que moi je parlais du fait que moi j'aimais bien le fait que Paris évolue et qu'il y avait deux mondes, il y avait les branchés et le vieux Paris, et que dans les deux cas, moi je trouve que c'était descriptif du Paris que j'aimais bien. Et donc c'était pas pour dire l'un est bien et l'autre est mal, c'était pour dire il y a un mariage qui se fait entre deux mondes qui d'habitude se parlent pas beaucoup, et puis avec cette histoire de chat qui est perdu, voilà, il y a un dialogue en tout cas entre cette jeune fille de 23 ans et puis les vieilles du quartier.
Madame René.
Madame René notamment, ouais. Ouais.
Madame René qui donc est la personne qui doit garder le chat de Chloé et qui effectivement le père, et c'est un personnage qu'on retrouve dans plusieurs de vos films, et à chaque fois Madame René incarne un petit peu, on a l'impression, l'esprit de résistance effectivement d'un vieux Paris, en cela, peut-être pas tant un esprit de résistance qu'une sorte de souvenir, de nostalgie aussi quand même d'une certaine manière, pas d'un vieux Paris qui se jouerait contre un nouveau Paris, mais effectivement il y a une tension entre une nostalgie et en même temps une forme de légèreté dans la plupart de vos films d'ailleurs.
Oui, j'en profite pour saluer Madame René qui vient d'avoir 99 ans. C'est vrai qu'elle représente le Paris d'Arletty, je dirais. Enfin, c'est-à-dire que
elle a une forme de gouaille.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que ce Paris qui était très convivial, les gens vivaient dans la rue. Il y avait quelque chose qui était très très chaleureux. Il s'est perdu certainement au fur et à mesure des années en fabriquant du froid, de l'administratif, du bien rangé, etc. Et on essaye toujours de le faire ressurgir. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que dans la modernité, on est conscient qu'il y a quelque chose à sauvegarder de ce vieux-là, quoi.
Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous, Cédric Lapiche, une fois que vous avez eu l'idée que quelque chose s'est cristallisé et que vous avez pu saisir, une fois que vous en venez au moment de la réalisation, c'est-à-dire de la réalisation sur le tournage, les lieux de tournage, qu'est-ce qui est difficile pour vous quand votre image, quand vos idées passent à l'image, justement? Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile que vous perdez et que vous tentez de retrouver, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui résiste?
C'est le processus de transformation. C'est Camus qui disait il y a un temps pour vivre et un temps pour témoigner de vivre. Il y a ça quand on crée des histoires, quand on fait des films, il y a le fait qu'on utilise sa vie ou ses observations, et ensuite il y a le moment où on témoigne et où il faut mettre ça sur le papier et ou mettre ça sur un écran, qu'il y a des choix qui se font, etc. Si la base est réaliste, le but il est pas forcément de parler de la réalité, il est de véhiculer du sens et de mettre en scène finalement le. Moi, j'ai souvent appelé ça la mise en sens, c'est-à-dire que je prends un matériau qui est assez brut et qui est assez chaotique. Enfin, vraiment, une rue ne veut rien dire et elle commence à vouloir dire quelque chose quand on la cadre, quand on la met dans une histoire et quand on dit voilà, la rue de Charonne, elle veut dire quelque chose dans Chacun cherche son chat à ce moment-là, disons. Et je pense, en tout cas moi, ça marche vraiment comme ça, les films comme Chacun cherche son chat, L'auberge espagnole ou Ce qui nous lie, ce qui marche, c'est ce qui m'échappe. Il y a toutes les choses qu'on essaye de maîtriser par l'expérience, par justement l'expérience de mise en scène, etc. Mais ce qui est le plus fort et ce qui reste du film, c'est ce qui m'a échappé à moi.
Il y a aussi des choses qui peuvent vous échapper à partir du moment où vous collaborez, je pense à un air de famille, qui est l'adaptation de la pièce de théâtre d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, qui a eu un succès public certain. Comment s'est passée cette collaboration extérieure avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, et puis aussi avec le théâtre, à partir d'un matériau que là vous n'avez pas puisé dans la réalité en regardant par votre fenêtre, mais là en allant au théâtre?
Ça s'est extrêmement bien passé. J'ai eu l'impression d'apprendre à écrire un scénario avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Il y a eu à peu près 5 mois de travail sur l'adaptation. Moi, dans ces 5 mois-là, il y avait un travail de transformation de ce qui se passait bien au théâtre. C'était vraiment un succès au théâtre à l'époque. Ils avaient joué 9 mois la pièce. Et j'essayais de me dire comment je peux faire du film avec ce que j'ai vu au théâtre. Et il y a eu toute une réflexion pour essayer de se dire qu'est-ce qui peut devenir cinématographique. Il y avait beaucoup de choses qui luttaient contre. C'est un huis clos. D'ailleurs, les critiques de cinéma sont pas gênées pour critiquer ça au moment de la sortie du film.
En disant que c'était une sorte de théâtre filmé.
C'était soit du théâtre filmé, soit du théâtre de boulevard. Enfin, les adjectifs en général sont toujours extrêmement,
ils ont élogieux.
Voilà, c'est ça, élogieux. Ils ont beaucoup d'imagination pour pourrir les choses. Mais
on pourra reparler de votre rapport aux critiques si vous voulez.
Non, je n'en parlons pas plutôt. Mais j'ai dit ça pour la blague. Mais au moment de la sortie d'un air de famille, tout ce que j'avais voulu faire, grosso modo, et qui était vraiment un travail. Alors là, sur ce film-là, il y a eu beaucoup de travail sur le fait de réfléchir à comment rendre quelque chose de théâtral cinématographique. Mes réponses étaient de se référer au cinéma asiatique. Parce que dans le cinéma asiatique, par exemple, la composition d'un cadre, que ce soit chez Ozu, chez Kurosawa, chez Mizoguchi, chez les réalisateurs chinois d'aujourd'hui, ils n'ont pas peur d'être très géométriques, d'être très cadrés, d'être très composés. Et là, du coup, je me suis dit, ça, c'est une bonne façon de fabriquer une sorte de théâtralité dans l'image. Et du coup, tout est extrêmement dessiné et cadré dans un air de famille. Et c'est comme ça que le théâtre est respecté, je dirais. Et par contre, il y avait beaucoup de choses qu'il fallait transformer, des effets comiques qui étaient des effets vraiment d'ouverture de porte et de fermeture de porte au théâtre.
Vous les avez mis de côté ou vous avez essayé de les retranscrire,
Je les ai retranscrits autrement. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu de venir de la cuisine, Bacri, il sort d'une trappe quand il va à la cave. Au lieu d'aller derrière, il va en dessous. Donc voilà, il y avait des transpositions comme ça qui sont des petites choses, mais qui fabriquaient une autre forme de comédie, disons.
Il y a aussi dans vos films, Cédric Lapiche, une dimension, alors on va le dire, chorale, collective, d'où l'intérêt aussi de cette collaboration que vous avez eue, de travailler, cette collaboration que vous avez eue avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Il y a un côté de groupe. Vos films sont fondés sur les groupes, c'est-à-dire sur les relations qui se tissent, sur les chemins qui se croisent. Et il y a aussi, à l'image, une sorte de collage, d'association libre d'images qui se produit sur l'écran. On a effectivement l'impression que le sens surgit parce que vous faites se croiser des trajectoires qui n'ont rien à voir, des images qui, a priori, n'ont rien à voir. Je pense notamment à ce film Paris. Au tout début, c'est une succession de plans, de scènes, de Parisiens, de personnes qui vivent à Paris, qui n'ont rien à voir. Est-ce que vous fonctionnez aussi comme ça, par association libre ? Le sens surgit parce que, effectivement, vous misez sur le groupe et tout à coup la convergence de destins, de trajectoires, d'éléments qui n'ont rien à faire ensemble.
S'il y a un sujet commun de tous mes films, c'est le rapport d'un individu à un groupe. Et ça, c'est vrai dans une famille, dans un groupe de copains au lycée, dans des colocataires en Espagne, des gens d'un quartier. Voilà. Donc, c'est toujours comment une personne va pouvoir s'associer avec un groupe et avec une problématique intime et psychologique va rejoindre une problématique collective et sociale. Donc, ça, on peut dire que c'est le sujet de tous mes films. Après, quand je fais Paris, je me dis, voilà, je me suis dit, c'est très prétentieux d'appeler mon film Paris. Et je me dis, comment je peux décrire cette ville-là? En fait, je me dis, il faut respecter le fait que cette ville est complètement anarchique, et donc il y a des vieux et des jeunes, il y a des riches et des pauvres, il y a des gens de nationalités différentes, il y a des gens intellectuels, il y a des gens ouvriers, voilà. Donc, et pour décrire la réalité de Paris, je suis obligé d'aller dans cette multiplicité, et donc ce côté complètement anarchique d'une ville. Et du coup, je pars sur ce principe de me dire, voilà, d'une part, il n'y aura pas un personnage ou trois personnages, il y en aura, je ne sais plus combien il y en a, une quinzaine, et je vais me référer plus à ce que fait Altman, Robert Altman, dans Shortcut ou dans Nashville. Donc je suis parti sur ce principe-là, sur le fait qu'il fallait aller presque jusqu'à se perdre avec des gens, et que moi, c'était le film le plus difficile à faire. C'est vraiment le film qui était le plus dur. Il faut arriver à fabriquer un film et une histoire avec plein d'histoires, avec plein de personnages. Ce qui était le cas de Rien du tout. Hein. Mon premier long métrage où je parle d'un grand magasin. Mais comme il y avait un lieu unique, ça aidait justement à rassembler. Alors que là, il y a eu une ville unique, mais justement, cette ville rassemble peu, quoi.
Mais ce qui est aussi le cas, en fait, de tous vos films, Cédric Lapiche, c'est-à-dire que quand vous dites que tous vos films traitent de ce rapport de l'individu au groupe, c'est exactement aussi la manière dont peut-être vous fabriquez un film en collaboration avec les lieux, avec d'autres intervenants. Et c'est aussi ce qu'on voit précisément se passer à l'écran, c'est-à-dire une personne qui tout à coup s'insère dans un groupe, mais jusqu'à se perdre dans ce groupe. Il y a toujours cette tension entre l'errance d'un individu et ce groupe qui vient le rattraper ou qui l'isole ou qui au contraire le soutient, le sauve.
Oui, c'est souvent le sauve, hein, parce que moi, je suis vraiment le...
Oui, vous faites un cinéma léger, il faut le dire aussi, vos films plutôt... Il y a une revendication même de légèreté face à une certaine nostalgie, les deux se tiennent ensemble.
Oui, c'est justement parce que je trouve que la vie est dure et la vie est triste que j'essaye de pas être dur ou triste dans mes films. C'est-à-dire que je me dis, quand on va au cinéma, c'est justement pour sortir de... Enfin, ou en tout cas trouver une solution à la dureté de la vie. Donc quelque chose, j'essaye que ce soit salvateur, disons. D'où la légèreté. Mais c'est vrai que sinon, à chaque fois dans les films, j'ai l'impression que le groupe vient aider une personne. À aller vers l'autre, c'est le chemin qu'il faut prendre.
C'est aussi ce qu'on voit avec cette ouverture en dehors des frontières de Paris. C'est effectivement la trilogie de l'auberge espagnole avec après les poupées russes et ensuite Castel chinois. Comment vous êtes-vous ouvert à d'autres villes que Paris et dans des lieux qui, pour le coup, ne sont pas restreints à un magasin, ne sont pas restreints à une ville qui vous était très proche? Comment vous avez entrepris ce nouveau projet-là?
Là encore, je parlais du fait que quand on fait un film, c'est un désir. Il y a eu le désir de tourner à Barcelone, le désir de tourner à Saint-Pétersbourg, puis le désir de tourner à New York, où j'ai fait confiance au fait que avoir envie d'être dans un endroit et que le tournage et une partie de ma vie se passe dans cet endroit, parce que forcément, quand j'ai fait Castel chinois, j'ai vécu un an à New York parce qu'il fallait que je prépare le scénario. Bah du coup, j'essaye de m'imbiber de cette ville, et donc ça a été vrai pour les trois, pour Saint-Pétersbourg et Barcelone et New York, où voilà, moi je me force à aller ailleurs, parce que c'est un moment aussi, après avoir fait plusieurs films aussi, c'est important de se renouveler, et donc filmer ailleurs, c'est une bonne façon de se renouveler, parce qu'on est obligé de, voilà, quand après avoir fait Paris, Chacun cherche son chat, je me dis voilà, il faut que j'aille filmer d'autres rues, et c'est une bonne façon de réfléchir à comment faire d'autres images. Donc il y avait ce désir là, et après c'est vrai que il y a encore une fois ce travail un peu journalistique de prendre beaucoup de photos, connaître les lieux visuellement, de se dire voilà, tiens, c'est drôle parce que Quand, par exemple, je faisais casse-tête chinois, je me dis, tiens, une rue à Paris, c'est gris et c'est entre noir et blanc, disons. C'est beige tout au plus. Et à New York, c'est bleu, c'est rouge, c'est jaune. Il y a de la couleur partout à New York. Et du coup, je me suis dit, voilà, en opposant les deux villes, je vais opposer aussi le fait qu'il y a quelque chose de très, enfin, c'est la pierre de taille parisienne qui est extrêmement beige et grise. Quand vous regardez une rue parisienne, c'est incroyable à quel point tout est gris. Et si vous allez à Londres, il y a beaucoup plus de couleurs. Si vous allez à New York, il y a beaucoup plus de couleurs.
Donc, et en Russie, c'est très géométrique, très cadré.
Ouais,
il y a d'ailleurs une scène que vous consacrez
à la rue Rossi. Ouais. Qu'ils appellent la rue parfaite, ouais.
Vous avez donc filmé dans d'autres lieux. Vous venez de dire, Cédric Lapiche, que vos films se construisaient aussi l'un par rapport aux autres. Il y a une forme de continuité, mais aussi des ruptures au moins dans les lieux filmés. Il y a aussi des ruptures que vous avez entrepris entre différents genres. Vous vous êtes aussi collé au polar, avec ni pour ni contre, bien au contraire. Vous êtes aussi collé, on va dire, à la science-fiction, c'était peut-être. Comment vous choisissez la forme en fonction du sujet que vous avez déterminé, ou le lieu, par exemple? L'idée vous vient, le sujet, tel sujet vous intéresse, et puis vous vous dites, cette ville correspond parfaitement à cette idée-là, ou alors cette manière de raconter va être la plus adaptée. Le genre de la science-fiction sera le plus adapté pour raconter ce désir d'enfant et ce désir d'avenir qui est exprimé dans Peut-être.
Par exemple, pour vous expliquer à quel point c'est complètement bizarre et intuitif, ni pour ni contre, je suis parti d'une phrase de Baudrillard. Cette phrase, il dit... Le bien, c'est quand on fait la différence entre le bien et le mal, c'est quand on fait plus la différence entre le bien et le mal. Je me suis dit, cette phrase est tellement géniale, je trouve que c'est magnifique de mettre ça en forme comme ça, parce que c'est compliqué de définir le bien et le mal. Et je me suis dit, voilà, je vais faire un film là-dessus. Le film s'appelle Ni pour ni contre, bien au contraire. Et voilà, je me suis dit, comment je peux faire un film sur ça? Parallèlement, j'avais un autre désir qui était le fait de faire un film noir, quoi, de faire un film de gangster. À l'époque, il n'y avait plus du tout de films de gangsters. Depuis Melville, je dirais, il n'y avait pas eu beaucoup de films de gangsters, donc ça, c'était un genre qui avait disparu. Du coup, j'avais envie de refaire ça. Moi, j'aime beaucoup le cinéma, les films noirs américains des années 40-50. Du coup, j'avais envie de me référer à ça, et de, encore une fois, de renouveler aussi ma façon de faire du cinéma en faisant d'autres images. Donc, il y a eu ça. Quand j'ai fait Peut-être...
Alors peut-être c'était en 1999 et Ni pour ni contre, bien au contraire, c'était en 2002. C'est pour qu'on resitue un petit peu dans notre filmographie.
Et peut-être, alors c'est très différent, parce que alors c'est vraiment un film, j'ai compris longtemps après pourquoi je l'avais fait. Parce que je comprenais pas pendant que je faisais le scénario. C'est un scénario qu'on a écrit avec les mêmes scénaristes que Le Péril Jeune, avec Santiago Amigorena et Alexis Galmo. On a écrit pendant 5 ans. C'est-à-dire que j'ai fait « Chacun cherche son chat » et « Un air de famille » entre-temps, parce qu'on n'arrivait pas à le financer. On a écrit, 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 réécrit.
Il faut raconter d'ailleurs cette histoire qui est quand même complètement folle de Peut-être. Et puis l'esthétique aussi complètement délirante que vous avez mis en forme dans ce film.
C'est un des films dont je suis le plus fier, en fait. Il est moins connu. Et en fait, j'aime beaucoup ce film, justement, sur son côté délirant et sur le fait qu'il y a vraiment une tentative de faire du cinéma qui est, c'est plus proche de la BD que du réalisme, en tout cas dans ce film. Et c'est vrai que là, il y avait, d'une part, c'était le début du numérique, c'est pratiquement un des premiers films, c'était à l'époque où, avec Jean-Pierre Jeunet, disons, on était très intéressés sur le début des trucages numériques. Et du coup, il y avait la volonté d'utiliser cette nouvelle façon de faire du cinéma, de fabriquer des images qui étaient, on va dire, peintes numériquement. Donc l'idée du Paris ensablé, ça se passe en 2070 dans un Paris imaginaire, et où l'idée, c'est que le Sahara a gagné Paris, quoi. Donc ça se passe dans les dunes de sable qui ont gagné les immeubles parisiens. Et bizarrement, on parlait pas de réchauffement climatique à l'époque, et aujourd'hui, à mon avis, on ne verrait le film que sous cet axe-là, ce qui n'était pas du tout l'axe envisagé à l'époque. Et du coup, l'idée, c'était de parler de l'an 2000, puisqu'on approchait de l'an 2000, et que moi, ça avait bercé ma jeunesse de me dire le futur, c'est l'an 2000, et puis là, c'était plus le futur, c'était aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce que moi, on m'avait dit qu'il y aurait des soucoupes volantes et qu'on vivrait dans les étoiles en 2000, et puis non. Et donc, c'était un peu pour me foutre de la gueule de la science-fiction, sur le fait que on ne peut jamais savoir ce qui va se passer dans le futur. Et donc, du coup, il y a eu une histoire qui est née de ça. Et alors, ce que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que le personnage de Romain Duris, donc il a 25 ans dans le film, Et sa copine, Géraldine Pellas, veut avoir un enfant et lui, il n'en veut pas. Et puis, il va faire un voyage dans le futur. Il va rencontrer son fils, qui est donc Jean-Paul Belmondo. Son fils, qui donc Jean-Paul, il devait avoir 75 ans, je crois, à l'époque. Il va convaincre son père de le faire. En fait, c'est ça l'histoire. Et moi, à l'époque, j'avais déjà un enfant. Et j'avais pas de problème de pas vouloir d'enfant. Et du coup, je me disais, mais pourquoi je fais un film sur quelqu'un qui veut pas d'enfant? Et j'ai mis du temps à comprendre
c'est
que j'étais pas.
Qui,
j'ai mis
qui
du temps à comprendre que j'étais pas Romain Duris, j'étais Belmondo. J'étais celui qui voulait exister, en fait.
Ça rejoint exactement ce que je vous disais, Cédric Lapisse, sur le fait que vous abordez, même sous la forme de la science-fiction ou du polar, exactement des questions qui traversent. Cette génération ou les générations, on va dire, nées entre les années 80 et au-delà de 2000, c'est-à-dire la question de faire des enfants, la question de l'écologie. En regardant vos films aussi, on s'aperçoit que la question féministe est tout à fait centrale, et la question du rapport homme-femme, de l'égalité, et puis le fait aussi d'être perdu, de ne pas savoir quel choix on va faire, le fait aussi de ne pas être exceptionnel, qui peut traumatiser la plupart d'entre nous. Est-ce que vous avez eu l'impression de faire en ça des films aussi plus qu'intimistes, en fait, même un petit peu politique, conscient, je ne sais pas quel serait le bon terme pour définir cette emprise, en tout cas, sur les questions qui continuent à traverser les années.
En fait, comme je vous disais tout à l'heure, comme j'essaye de partir de la réalité, quand je fais l'Auberge espagnole, j'essaye de partir des infos que j'ai. Donc, il y avait une espèce d'enthousiasme à faire Erasmus, à faire des études à l'étranger. Bizarrement, nous, on a filmé, il y avait des pesetas et des francs. Et puis, l'année d'après, il y avait des euros. Donc, ça a correspondu à vraiment une espèce de formation de l'Europe. Si je faisais l'Auberge espagnole aujourd'hui, je ferais un film totalement différent. C'est-à-dire que je parlerais du Brexit, je parlerais des problèmes de la Catalogne aujourd'hui. En plus, c'était à Barcelone. Forcément, le matériau que j'utiliserais au départ m'amènerait à parler d'autres choses. Donc, forcément, des histoires politiques ou des histoires encore une fois, comment l'époque s'imprime dans un moment, ça surgirait dans le film. Là, l'Auberge espagnole parle d'un moment très enthousiaste de formation de l'Europe en parallèle avec ce personnage qui est en formation, quoi.
D'ailleurs, j'allais vous poser la question, Cédric Lapisse, est-ce que l'Auberge espagnole, est-ce que selon vous, a une idée de l'Europe qui est déjà dépassée? C'est-à-dire, on était dans une vision très idéalisée de l'Europe grâce à Erasmus, et finalement, aujourd'hui, l'idéal européen est un petit peu passé. Est-ce qu'il y a un côté tellement ancré dans l'époque, dans vos films, qui sont à la fois qui font ressurgir des questions qui sont encore très présentes, mais qui aussi peuvent passer vite et on se dit, mais finalement, l'Europe, c'était bien. Pourquoi on a perdu, en fait, cette idée-là?
Je pense qu'on n'a pas fini de former l'Europe. Je pense que, par exemple, le Brexit, ils sont en train de parler de revenir en arrière. Donc, je pense qu'ils ont réalisé un peu tard qu'ils avaient fait une erreur. Donc c'est un chemin, quoi. C'est-à-dire que pour moi, justement, ce qui est peut-être beau dans l'Auberge espagnole, c'est que ça saisit, ça fait une photographie d'un moment qui est extrêmement, effectivement, enthousiaste, certainement un peu naïf et enthousiaste et idéaliste, mais qui correspond à une réalité, c'est qu'il y a une envie d'être ensemble. Et moi, j'ai toujours parlé des États désunis en parlant de l'Europe. C'est vrai que quand vous comparez la Pologne et l'Espagne et l'Angleterre et la France, c'est des pays qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, beaucoup moins que le Texas avec New York, quoi. Donc je pense que l'Europe marche sur la diversité et sur quelque chose de justement qui est compliqué à réunir, en tout cas.
Vous venez de dire, Cédric Lapisse, que vous feriez peut-être autrement l'Auberge espagnole aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres films que vous aimeriez aujourd'hui faire autrement ou retoucher? Des regrets même? Des choses où vous avez dit, là, il y a quelque chose que j'avais pas saisi et que j'ai pas vu?
Non, j'ai pensé ça après mon premier long métrage, après Rien du tout, où je m'étais dit, j'aimerais bien le refaire. C'était un peu, je pense que voilà, j'apprenais à faire du cinéma, quoi. C'était
Qu'est-ce qui vous déplaisait?
D'une part, esthétiquement, j'étais pas content. C'était pas exactement ce que je voulais. Et là, je viens de refaire l'étalonnage parce que ça va passer sur Arte bientôt. Et en fait, je me suis dit que c'était pas si mauvais que ça. J'ai une espèce d'image.
Je vous confirme, c'est un très bon film.
Parce que ça faisait vraiment plus de 20 ans que j'avais pas vu le film, donc j'étais un peu.
Mais d'ailleurs, ça vous a fait quoi de le revoir?
Justement, je me suis dit que j'avais été dur avec moi-même parce que c'était mieux que je pensais. Et je pense que, enfin, là maintenant, j'ai compris qu'on fait pas de progrès. C'est-à-dire que avant, je pensais que je faisais des progrès, que j'étais un meilleur réalisateur après chaque film. Là, j'ai bien compris qu'on s'améliore pas, quoi.
Il y a des choses dont vous serez jamais content et vous avez renoncé.
Ouais, c'est un peu dur, mais c'est vrai que le film que je préfère que j'ai fait, c'est Le Péril Jeune. C'est le deuxième film que j'ai fait. C'est il y a plus de 20 ans. Donc, j'aimerais bien refaire un film qui soit aussi bien. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que maintenant, je sais que le bon film, c'est celui qui vous échappe le plus, finalement. Donc, on peut pas maîtriser ce qui vous échappe le plus.
Vous êtes déjà mis une pression telle, Cédric Clapiche, pour vous dire je veux faire un bon film comme Le Péril Jeune, je veux retrouver cette sensation d'avoir un film qui m'échappe et qui m'apparaît comme un film génial. Est-ce que vous vous êtes déjà mis dans ces conditions-là de création et ça a été catastrophique ou au contraire finalement vous vous êtes dit au moins j'apprends que ça ne marche jamais comme ça?
Ben c'est à chaque fois, je me le dis. Donc non, justement maintenant j'ai peut-être arrêté de le faire parce que oui, peut-être en étant trop volontaire, en se disant j'aimerais bien refaire ça, il y a quelque chose forcément qui marche pas. Mais maintenant disons je pense que je fais plus confiance à la spontanéité. Donc je sais que j'ai l'impression que c'est moi qui décide, mais en fait c'est pas moi qui décide. Il y a quelque chose qui est au-delà de moi, intérieur de moi, et je parlais de l'inconscient. C'est vrai qu'il y a un moment où il faut se mettre dans des conditions où il faut laisser son inconscient parler parce qu'il est meilleur juge, disons.
C'est extrêmement difficile.
Et c'est très difficile parce qu'on est des animaux conscients et que.
Bah oui, de s'obliger à être dans l'abandon, c'est même presque impossible.
Ouais,
même quand
c'est
on
dangereux,
dit.
C'est quelque chose qui fait peur. Donc, mais en tout cas, c'est le seul lieu intéressant, c'est le seul lieu de création intéressant.
Vous avez dit tout à l'heure, Cédric Clapiche, que vous cherchiez à vous renouveler. Alors, vous avez dit aussi que vous ne progressiez pas, mais au moins vous tentez de vous renouveler en allant dans des lieux différents, en filmant des histoires différentes, de manières différentes. Vous avez dit. Je cherche à faire d'autres images. Quelles seraient pour vous, qu'est-ce que vous entendez par image et qu'est-ce que c'est pour vous d'autres images? C'est en termes esthétiques, en termes de couleurs, en termes de cadres, qu'est-ce
non,
que vous
non,
entendez
c'est,
par là?
C'est, si vous vous référez à l'histoire du cinéma, moi je suis sensible à ça parce que je ne sais pas si vous connaissez le site lacinétech.com, mais c'est un site où justement on essaye de mettre en valeur les films de patrimoine. Et quand on regarde ce qui vous touche dans les grands films, les grands classiques du cinéma, c'est des choses super variées, parce que ça peut être des films futuristes, ça peut être des films de genre, ça peut être des films d'auteur.
Oui, vous avez parlé de Truffaut, du cinéma japonais,
ouais,
d'Altman.
Ça peut être de la comédie. Moi, j'aime autant Citizen Kane que Rabbi Jacob, que Ozu. Quoi. Donc, il n'y a pas d'idée de c'est quoi le grand cinéma, parce que il y a des belles images, ou parce qu'il y a des grands acteurs, ou parce qu'il y a un scénario incroyable. C'est justement, ça vient de partout, le cinéma. Et donc, il y a quelque chose de poétique, en tout cas, qui peut s'imprimer dans un film. À un moment, quand Godard fait À bout de souffle, il y a quelque chose de très poétique. À un moment, quand Hitchcock fait Vertigo, il y a quelque chose de très poétique qui s'imprime dedans. L'un est plus un film de genre, l'autre se moque un peu plus des films de genre. Ou en tout cas, fait un travail de distanciation par rapport au genre. Il y a évidemment pas de méthode, et c'est ça qui est beau, c'est que tous les chemins sont possibles et tous les réalisateurs ont une réponse différente à ça, à cette recherche, quoi.
Vous avez dit aussi, Cédric Clapiche, que vous n'étiez pas content sur le moment de Rien du tout, donc votre premier film, et de l'image qui était rendue. Qu'est-ce qui vous déplaisait? Et c'est aussi ça le sens de cette question sur l'image, c'est qu'est-ce que vous attendez d'une image quand vous la voyez au montage ou même quand vous essayez de la saisir? Est-ce que vous pensez qu'elle doit faire une photographie, vous avez beaucoup employé ce terme-là, de ce qu'il y a sous les yeux, et puis c'est l'image d'après qui donnera du sens, ou est-ce que c'est même en termes esthétiques, en termes de couleurs, en termes de lumière, est-ce qu'une belle image, c'est aussi ça, pas seulement l'image parfaite, mais l'image en fait qui dit des choses par elle-même?
Non, j'ai compris assez rapidement, justement, parce que je viens de la photo, qu'une belle photo, une belle image ne sert à rien dans un film. En fait, et justement, quand j'ai fait Chacun cherche son chat, j'ai plus l'habitude, je me disais surtout, fais pas des belles images. Et donc, je prenais des rues qui ressemblaient à rien, des rues qui étaient pas belles. J'avais pris comme parti de pas filmer les monuments à part le génie de la Bastille.
On n'est pas du tout dans un film carte postale.
Non, c'est ça. C'était un refus de la carte postale. Et je me suis dit, et il y a des très belles images ou des beaux moments dans ce film, en essayant de pas de faire du beau, quoi. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, disons. Mais par contre, alors pour revenir à votre question, dans Rien du tout, quand je suis sorti du film, je me suis dit j'ai trop été vers des couleurs criardes parce que j'avais envie que chacun ait des costumes avec des couleurs différentes, etc. Et je me suis dit à la fin c'était un perroquet et en fait avec le recul. C'est le thème du film, et donc du coup, je peux plus le critiquer comme je l'ai critiqué à cette époque-là, parce que justement, c'est sur le criard, quoi, sur le fait qu'une foule, si vous regardez dans la rue, si vous regardez les gens dans cette salle, ils vont pas ensemble, et les couleurs vont pas ensemble. Mais c'est pas un défaut, hein, c'est pas du tout. Hein. Mais c'est le fait que voilà, la vie, elle est faite de ce côté trop criard, trop. C'est un des personnages d'ailleurs du film qui dit, elle dit, vous voyez pas que ça jure, c'est Odette Laure qui dit ça. Et les gens jurent. Et je trouve que finalement, après coup, je me dis, j'ai réussi ça. En fait, c'est un film qui jure, quoi.
Vous essayez de vous renouveler, Cédric Lapiche. Dernièrement, vous avez tenté autre chose, c'est la série. C'est la série 10%. Vous avez écrit, réalisé plusieurs épisodes.
Alors, j'ai pas écrit, j'ai juste réalisé, ouais.
Vous avez réalisé plusieurs épisodes de cette série. Puis, vous avez aussi réalisé des documentaires. Alors ça, je l'ai appris, des documentaires sur le perchiste Renaud Lavillenie, notamment dans sa préparation des JO 2016. Et quand on regarde ce documentaire, il y a cette idée d'absolu et de dépassement. Ce qui, pour le coup, je trouve, tranche complètement, jure, si je reprends votre terme, Cédric Lapiche, avec tous ces moments, c'est rien du tout, ces moments de fragilité et de vulnérabilité qu'on trouve dans vos films. Il y a d'un côté, dans votre filmographie, cette idée de la vulnérabilité, et puis de l'autre côté, ce personnage en quête d'absolu.
Oui, alors c'est vrai que... c'est les deux documentaires que j'ai fait. Il y a eu un sur Aurélie Dupont, L'espace d'un instant, et donc ce film sur Renaud Lavillenie. Dans les deux cas, c'est des gens exceptionnels, disons, c'est des personnalités exceptionnelles. Et c'est vrai que quand je fais du documentaire, j'aime bien faire ça, mais c'est en opposition avec ce que je vous disais juste avant sur, enfin, en dehors, en coulisses, sur le fait que moi, pendant longtemps, j'en souffrais quand j'étais adolescent, je me sentais trop normal. Et je me suis dit, j'aurais rien à raconter parce que je suis trop comme tout le monde. Je pense que c'est en faisant Le Péril Jeune où j'ai compris que assumer d'être normal et assumer d'être assez, enfin, pas du tout exceptionnel, disons, c'était une force, en fait. Et qu'il y avait des histoires à raconter en étant normal et en étant comme tout le monde. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une opposition entre le fait de vouloir exister, de vouloir être exceptionnel, parce que je pense que c'est le désir de tout le monde. Et c'est vrai que moi, j'ai fait du saut à l'éperche quand j'étais adolescent, et donc quand j'ai fait ce film sur Renaud Lavillenie, je retrouve mes rêves de l'époque d'être champion du monde, de faire les Jeux Olympiques, etc. D'avoir une espèce de quête vers quelque chose qui me pousse plus haut, quoi. Et aujourd'hui, donc, c'est plus le saut à la perche, c'est le cinéma qui m'aide à faire ce travail-là. Mais c'est justement en faisant confiance à la petitesse et à quelque chose d'assez, ouais, petit et insignifiant, quoi.
Donc, vous êtes fasciné quand même par ces figures exceptionnelles et aussi ce qu'on retrouve dans certains de vos personnages qui, en fait, ne veulent pas renoncer à leur rêve de jeunesse. Xavier veut continuer à écrire. Xavier, c'est interprété par Romain Duris dans L'Auberge espagnole, Les poupées russes et Casse-tête chinois. Il ne veut pas renoncer au fait d'écrire, de devenir un grand écrivain. Et puis, la vie passe aussi. Mais de la même manière, je pense aussi au rôle de Thomasy dans Le Péril Jeune. Finalement, Thomasy Ses amis se demandent pourquoi finalement ils l'ont laissé tomber, où est-ce qu'ils l'ont laissé tomber, qu'est-ce qui s'est passé. Mais il était lui aussi en quête d'absolu.
Oui, et c'est surtout, alors le péril jeune, c'est justement le récit des quatre qui se sentent pas aussi exceptionnels que Tomasi. Et c'est eux qui vivent, c'est eux qui survivent. Et donc, cette histoire-là, qui est un peu la même que celle de Xavier, parce que Xavier, c'est aussi
Monsieur Tout le Monde. C'est la suite de Tomasi c'est comme les amis de Tomasi.
C'est les amis de Tomasi, justement. Alors, c'est le même acteur, mais c'est pas le même personnage. Et justement, Romain, il avait du mal à jouer Xavier au début. Déjà, il a fallu lui couper les cheveux. Pour lui, c'était un supplice atroce parce qu'il avait des locks quand on l'a rencontré. Puis il avait des cheveux longs et pour lui, c'était vraiment le signe de ce qui le rendait exceptionnel. Et puis quand on lui a coupé les cheveux, qu'on lui a mis une laine polaire. Et qu'on l'a mis devant l'université de Barcelone, il se disait mais je peux rien jouer, je ne suis plus ce que je suis d'habitude. Et justement, à partir de ce film-là, il est rentré dans ce personnage en se disant comment je peux le rendre attachant, intéressant, sexy. Et c'était ça qui était intéressant, c'était de voir comment, en partant de rien, il y a quand même quelque chose, quoi. Moi, c'est ce thème-là qui m'intéresse finalement, c'est de voir comment vous dites voilà, il y a des idéaux, il y a des rêves et tout ça, mais affronter la réalité, le fait que parfois il y a des rêves qu'on n'aboutit pas, eh ben c'est déjà un idéal, ça. C'est-à-dire que justement, quand on parlait de la scène Romain Duris dans les Poupées Russes, il marche derrière cette femme magnifique et
dans la rue parfaite,
Russie. Et il se dit ben non, finalement je vais pas aller vers elle qui est parfaite, extrêmement belle, parce que peut-être le quotidien va pas être formidable avec elle.
D'ailleurs, la déclaration de Wendy après lui dit je t'aime, j'aime tes imperfections.
Ouais. Et je pense que aimer ses imperfections, c'est un but, quoi. Et donc ça peut être un idéal.
Alors on va pas parler des critiques, Cédric Lapiche, vous ne voulez pas en parler,
mais si je veux bien en parler.
Vous l'avez vous-même évoqué, c'est-à-dire que très rapidement, votre cinéma, d'ailleurs, vous faites vous-même votre autocritique, je pense à la fin de Casse-tête chinois, Xavier Romain Duris rend un manuscrit, son éditeur, incarné par Dominique Besnéard, lui dit « mais cet atroce happy end », et Audrey Tautou lui saute dessus en disant « mais qu'est-ce qu'il dit, celui-là, il comprend rien, c'est pas atroce un happy end, on a parlé de la légèreté de vos films, est-ce que vous pensez que la légèreté est mal vue ?» En France, quand on...
Oui. Non, ben, clairement, oui, il y a vraiment... Enfin, rien n'a changé. Il y avait une espèce d'opposition Molière-Racine sur cette problématique. Ça n'a pas beaucoup changé depuis cette époque-là.
Mais vous continuez néanmoins à soutenir, à résister en tout cas, en faisant un cinéma qui reste léger. C'est ce que vous voulez absolument proposer à votre public.
Moi, je veux rien. Je pense qu'on fait les films avec ce qu'on est, c'est-à-dire que Renoir fait des films avec ce qu'il est, Audiard fait des films avec ce qu'il est, Abdelatif Kechiche fait des films avec ce qu'il est, et on fait ce qu'on peut, quoi. C'est-à-dire quand on est réalisateur, c'est pas qu'on veut faire les films qu'on fait, c'est qu'on les fait, quoi. Et moi, je pourrais pas faire les films de Kechiche, je pourrais pas faire les films de Gérard Rouy.
Vous définiriez comment votre cinéma par rapport à ces cinéastes-là?
Comment je définirais mon cinéma?
Oui. C'est difficile.
Ouais, c'est difficile parce que non, il y a je pense qu'on en parle depuis tout à l'heure. Justement, ça se décrit pas en une phrase. C'est qu'il y a une tentative de parler de la réalité et en même temps de décaler la réalité. Mais tout ça pour encore une fois pour provoquer du sens, pour provoquer des choses. Puisqu'on parlait des critiques, moi souvent les critiques me disent mes films sont caricaturaux. Moi, la caricature est un langage pour moi. Donc la caricature, c'est quelque chose de totalement assumé, volontaire, de la même façon que Chaplin c'est caricatural, Tati c'est caricatural, et qu'il y a quelque chose dans la caricature que je trouve totalement essentiel pour moi.
Et c'est de l'ordre du cliché aussi,
voilà,
ce que vous tentez de saisir.
Mais justement, dans le cliché, un couple amoureux devant un coucher de soleil, c'est pas forcément faux. La question, c'est de savoir pourquoi c'est une image importante. Pourquoi un monument, c'est une image importante. Poser devant la tour Eiffel, pourquoi tellement de gens veulent poser devant la tour Eiffel. Quand on est dans le Faut pas refuser le cliché en bloc, parce que d'un coup on refuse tout le cinéma de genre, tout le cinéma hollywoodien, et le fait que les gens s'embrassent à la fin, etc. On peut pas juste dire voilà c'est pas intéressant. Si c'est intéressant puisque autant de gens le regardent, le font, et donc il y a une question qui est extrêmement intéressante dans le cliché.
J'ai commencé Cédric Lapiche en vous parlant des réactions que votre nom, que vos films suscitaient dès qu'on en parle. Quelle image avez-vous de votre public ?
Ah bah j'en ai pas d'image. Non, en plus, je parlais avec un architecte célèbre, il me disait vous avez le nombre d'entrées et nous on n'a pas le nombre d'entrées avec quand on fait un bâtiment. Et je trouvais ça drôle parce que j'avais jamais réfléchi à ça. Mais nous, on a des chiffres et c'est vrai que voilà, un air de famille c'est 2,5 millions, l'auberge espagnole c'est 3 millions et 10% c'est 6 millions de gens qui ont vu la série. C'est des chiffres qu'on peut pas du tout visualiser. Il y a pas des corps de métier où il y a pas des genres de gens. C'est très très variable quoi. Donc c'est difficile d'avoir une espèce de vision.
Vous ne voulez pas viser un certain public. Vous ne voulez pas faire spécifiquement un cinéma populaire ou intimiste ou de genre.
Non. Moi, je raconte souvent cette anecdote parce qu'elle est parlante pour moi. C'est la même année que je fais Ni pour ni contre, bien au contraire, et L'auberge espagnole. Je suis persuadé, en faisant Ni pour ni contre, que ça va être un énorme succès. Ça fait 400 000 entrées. Et je suis persuadé que L'auberge espagnole ne va plaire à personne. Et ça fait 3 millions d'entrées. Je me suis trompé deux fois la même année. Plus jamais j'ai visé quelque chose après. C'est-à-dire que je n'en sais rien. Là, vraiment, je suis très très honnête en vous disant que, d'une part, en faisant les films, je ne sais pas à qui je parle. Ça a été vrai sur les deux films. Et d'autre part, je me trompe si je suppose que ça va marcher ou pas marcher.
Alors, dernière question, Cédric Lapiche, c'est la question de la postérité ou de la transmission. C'est le sens, le sujet de votre dernier film, ce qui nous lie. C'est-à-dire à la fois la question de la fraternité, mais de la fraternité alors que le père décède. Et que fait-on en fait de cette maison qu'il nous laisse? Que fait-on de ce qui nous a été transmis et ce dont on hérite? On est moins du côté de la jeunesse dans l'incertitude, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on nous a laissé? Et vous, Cédric Lapiche, qu'est-ce que vous avez envie de laisser ou de transmettre?
J'ai failli dire quand vous dites ils laissent la maison parce qu'il y a vraiment un espèce de truc super pesant. C'est en fait ils boivent du vin quand même les trois.
C'est vrai qu'ils boivent du vin, mais ils passent beaucoup de temps à boire du vin en parlant de comment on vend cette maison, qu'est-ce qu'on en fait.
Non, bien sûr. Mais c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est comment des choses graves peuvent devenir légères et comment des choses légères peuvent devenir graves aussi. Ça m'intéresse dans les deux sens, mais cette histoire de transmission, forcément, elle m'intéresse parce que plus ça va et plus la question du temps qui passe est une question intéressante pour moi. C'était vrai dans la trilogie puisque finalement, pendant 13 ans, j'ai filmé les mêmes acteurs et qu'il y avait cette notion de voir des gens vieillir, voir des gens évoluer à différents âges. Et cette idée du temps qui passe, encore une fois, elle est vraiment, elle devient importante en vieillissant, quoi, forcément. Ouais.
Bah merci beaucoup, Cédric Lapiche.
Merci à vous.
On va finir sur ce temps qui passe. Merci à vous, Cédric Lapiche.
Merci.
C'était la masterclass de Cédric Lapiche avec Géraldine Mosna-Savoie. Coordination Arnaud Laporte, attaché de production Chouchane Guergaillant.